ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.
Être dans la nature ainsi qu'un arbre humain, étendre ses désirs comme un profond feuillage, et sentir par la nuit, paisible et par l'orage, la sève universelle affluer dans ses mains. Vivre, avoir les rayons du soleil sur la face, boire le sel ardent des embruns et des pleurs, et goûter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir dans son cœur vif l'air, le feu et le sang tourbillonner ainsi que le vent sur la terre. S'élever au réel et pencher au mystère, être le jour qui monte et l'ombre qui descend, comme du pourpre soir aux couleurs de cerise. Laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau, et comme l'aube claire appuyée au coteau, avoir l'âme qui rêve au bord du monde. Assise.
Ce poème, sur lequel j'ai posé une musique, avait été retenu dans un travail d'atelier poétique mené tout récemment avec Éric Girard au théâtre Arphonème. Et cela a été l'occasion pour moi de m'intéresser de plus près à celle qu'il a écrite et à laquelle j'ai choisi de consacrer cette émission. Bonjour à vous, chers auditeurs de Radio B, heureuse de vous retrouver en ce mois de septembre, et de vous emmener donc à la découverte d'une poétesse du début du XXe siècle, qui s'appelle Anna de Noailles. Le texte que vous venez d'entendre a pour titre « La vie profonde » et il est très représentatif d'une caractéristique essentielle de la poésie d'Anna de Noailles, qui est son désir d'osmose avec la nature, cette forme de panthéisme qui inspire bon nombre de ses poèmes. Certes, le style peut sembler un peu désuet comparé à ce qui s'écrit aujourd'hui, mais j'ai pour ma part été sensible à cette langue très musicale et à ce lyrisme qui chante la beauté de la nature et son pouvoir régénérateur. À l'époque à laquelle a vécu Anna de Noailles, écrire en vers, manier l'alexandrin ou l'octosyllabe était la norme, et quand bien même le dadaïsme puis le surréalisme firent voler en éclats ses règles d'écriture, il apparaît qu'un certain classicisme a perduré et a toujours des adeptes aujourd'hui. En tout cas, ce qui m'a accroché personnellement dans l'écriture d'Anna de Noailles, c'est, au-delà de la forme, sa très grande sensibilité et sa faculté de trouver les mots justes pour transmettre ses éblouissements. Les textes que vous allez entendre au cours de cette heure proviennent d'un ouvrage paru au Livre de Poche intitulé « Anthologie poétique et romanesque » avec une préface de François Ravier à laquelle j'ai emprunté des passages pour distiller quelques commentaires au fil de mes lectures. L'un des poèmes d'Anna lui a été inspiré par la musique de Chopin. Et je crois qu'on ne pouvait pas rêver meilleure correspondance que celle-ci entre poésie et musique. Ce seront donc des pièces de Frédéric Chopin que vous entendrez en écho au poème. Commençons par ce prélude en la bémol majeur interprété par Martha Argerich qui fera écho à un texte intitulé « La musique de Chopin ». Le vent d'automne, usant sa rude passion, élague le jardin et disperse les fleurs. Et les arbres, emplis de force et de fureur, avec des mouvements de dénégation, refusent d'écouter ce sombre séducteur. Une humidité terne, éplorée, abattue, enveloppe les temps, se suspend aux statues, rôde ainsi qu'une lente et romanesque amante. La nue est alourdie et pourtant plus distante. Le vent, comme un torrent déversé dans l'allée, roule avec une voix cristalline et fêlée des graviers reluisants et des pommes de pin. Et dans la maison froide où je rentre soudain, un prélude houleux et grave de Chopin. Profond comme la mer immense et remuée, pousse jusqu'en mon cœur ses sonores nuées. Ô sanglots de Chopin, ô brisement du cœur, pathétique sommet saignant au crépuscule, cris humains des oiseaux traqués par les chasseurs dans les roseaux altiers de la froide Vistule. Soupir, gémissement, paysage du pôle, qu'entr'ouvre le boulet d'un soleil rouge et rond, noir cachet de la foudre au cœur chenu des saules. Tristesse de la plaine et des cris du héron. Ô Chopin, votre voix qui reproche et réclame, comme un peuple affamé se répand dans nos âmes, vous êtes le martyr sur le gibet divin. Votre bouche a goûté le fiel au lieu du vin. Toute offense a meurtri votre cœur adorable. La mer se plaint en vous et arrache les sables. Chopin, et nous pleurons les bonheurs refusés, tandis que votre sombre et musicale rage s'étend sur l'horizon chargé de lourds nuages comme un grand crucifix de cris entrecroisés. L'offrande à la nature. Nature au cœur profond, sur qui les cieux reposent, nul n'aura comme moi si chaudement aimé la lumière des jours et la douceur des choses, l'eau luisante et la terre où la vie a germé. La forêt, les étangs et les plaines fécondes ont plus touché mes yeux que les regards humains. Je me suis appuyée à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains. J'ai porté vos soleils ainsi qu'une couronne sur mon front plein d'orgueil et de simplicité. Mes jeux ont égalé les travaux de l'automne et j'ai pleuré d'amour au bras de vos étés. Je suis venue à vous sans peur et sans prudence, vous donnant ma raison pour le bien et le mal, ayant pour toute joie et toute connaissance votre âme impétueuse aux ruses d'animal. Comme une fleur ouverte où logent les abeilles, ma vie a répandu des parfums et des chants, et mon cœur matineux est comme une corbeille qui vous offre du lierre et des rameaux penchants. Soumise, ainsi que l'onde où l'arbre se reflète, j'ai connu les désirs qui brûlent dans vos soirs et qui font naître au cœur des hommes et des bêtes la belle impatience et le divin vouloir. Je vous tiens toute vive entre mes bras, nature. Ah, faut-il que mes yeux s'emplissent d'ombre un jour et que j'aille au pays sans vent et sans verdure, que ne visite pas la lumière et l'amour. Ce poème, comme celui que vous avez entendu en début d'émission, fait partie du premier recueil d'Anna de Noailles, paru en 1901 et intitulé « Le cœur innombrable ». On peut dire qu'il se nourrit de toute la poésie antérieure et surtout celle du XIXe siècle. Voici ce qu'en dit François Ravier sur l'ensemble du recueil tout d'abord, puis sur le poème « L'offrande à la nature ». Ce cœur raconte une histoire, de la sensation au sentiment, du sentiment à une perception métaphysique du monde, un être naît à lui-même et chante ses plaisirs et ses peines. Son cœur est innombrablement séduit par ce que la vie lui présente. La saveur d'une saison ou d'un baiser, le souvenir d'un rêve ou d'une mélancolie, le vers les saisit et les cultive. Dans l'offrande à la nature, la poétesse accomplit un geste sacré, ancestral. Elle présente à la nature, dans la corbeille de son cœur, du lierre et des rameaux penchants, végétaux prolifiques par lesquels elle espère conjurer la mort. Le lien est alors renoué avec les puissances invisibles que nous appelons parfois les dieux. C'est le geste qui importe, symbole d'un pacte par lequel la poétesse entre dans le miracle permanent des choses. Continuons maintenant avec un troisième poème qui a pour titre « Les parfums » et dans lequel sont rassemblés toute une variété de parfums qu'elle qualifie notamment de « dieux évocateurs ». Alors en le lisant, j'ai bien sûr pensé à Charles Baudelaire et à son poème « Le flacon », admirablement mis en musique par Léo Ferré et que vous entendrez à la suite du texte d'Anna de Noailles. Les parfums. Mon cœur est un palais plein de parfums flottants qui s'endorment parfois au pli de ma mémoire et le brusque réveil de leur bouquet latent, sachet glissé au coin de la profonde armoire, soulève le linceul de mes plaisirs défunts et délie en pleurant leur triste bandelette. Puissance exquise, dieux évocateurs, parfums, laissez fumer vers moi vos riches cassolettes. Parfum des fleurs d'avril, senteur des fenaisons, odeur du premier feu dans les chambres humides, arômes épandus dans les vieilles maisons et pâmés au velours des tentures rigides. Apaisante saveur qui s'échappe du four, parfum qui s'alanguit aux sombres reliures, souvenir effacé de notre jeune amour qui s'éveille et soupire au goût des chevelures. Fumée du vin qui pousse au blasphème brutal, douceur du grain d'encens qui fait qu'on s'humilie, extrait de l'iris bleu, poussière de santal, parfums exaspérés de la terre amolie, souffle des mers chargés de varech et de sel, tiède enveloppement de la grange bondée, torpeur claustrale, éparse aux pages du micel, âcre ferment du sol qui fume après l'ondée, odeur des bois à l'aube et des chaux espaliers, enivrante fraîcheur qui coule des lessives, baume vivifiant aux parfums familiers, vapeur du thé qui chante en montant aux solives. J'ai dans mon cœur un parc où s'égarent mes mots, des vases transparents où le lilas se fane, un scapulaire où dort le bruit des saints rameaux, des flacons de poison et d'essence profane. Des fruits, trop tôt cueillis, mûrissent lentement en un coin retiré sur des nattes de paille, et l'arôme subtil de leur avortement se dégage au travers d'une invisible entaille. Et mon fixe regard, qui veille dans la nuit, c'est un caveau secret que la myrrhe parfume où mon passé plaintif, pâlissant et réduit, est un amas de cendres encore chaudes qui fument. Je vais, buvant la laine et les fluidités des odorants frissons que le vent éparpille, et j'ai fait de mon cœur, au pied des voluptés, un vase d'Orient où brûle une pastille.
Il est de forts parfums pour qui toute matière est poreuse. On dirait qu'il pénètre le verre en ouvrant un coffret venu de l'Orient, dont la serrure grince et rechigne en criant. Ou dans une maison déserte, quelque armoire pleine de l'âcre odeur des temps poudreux et noirs, parfois on trouve un vieux flacon qui se souvient d'où jaillit toute vive une âme qui revient. Mille pensées dormaient, chrysalides funèbres, frémissant doucement dans les lourdes ténèbres qui dégagent leur aile et prennent leur essor, teintés d'azur, glacés de rose, la voilà le souvenir enivrant qui voltige dans l'air troublé, les yeux se ferment, le vertige saisit l'âme vaincue et la pousse à deux mains vers un gouffre obscurci de miasmes humains. Ainsi, quand je serai perdu dans la mémoire des hommes, dans le coin d'une sinistre armoire, quand on m'aura jeté vieux flacon désolé, décrépit, poudreux, sale, abject, visqueux, fêlé, je serai ton cercueil, aimable pestilence, et le témoin de ta force et de ta virulence, cher poison préparé par les anges, liqueur qui me ronge, ô la vie et la mort de mon cœur.
Les rêves. Le visage de ceux qu'on n'aime pas encore apparaît quelquefois aux fenêtres des rêves et va s'illuminant sur de pâles décors dans un argentement de lune qui se lève. Ils flottent du divin aux grâces de leur corps. Leur regard est intense et leur bouche attentive. Il semble qu'ils aient vu les jardins de la mort et que plus rien en eux de réel ne survive. La furtive douceur de leur avènement enjôle nos désirs à leur vouloir propice. Nous pressentons en eux d'impérieux amants venus pour nous, afin que le sort s'accomplisse. Ils ont des gestes lents, doux et silencieux. Notre vie uniment vers leur attente afflue. Il semble que les corps s'unissent par les yeux et que les âmes sont des pages qu'on a lues. Le mystère s'exalte aux sourdines des voix, à l'énigme des yeux, au trouble du sourire, à la grande pitié qui nous vient quelquefois de leur regard, qui s'imprécise et se retire. Ce sont des frôlements dont on ne peut guérir, où l'on se sent le cœur trop las pour se défendre, où l'âme est triste ainsi qu'au moment de mourir. Ce sont des unions lamentables et tendres. Et ceux-là resteront, quand le rêve aura fui, mystérieusement, les élus du mensonge, ceux à qui nous aurons, dans le secret des nuits, offert nos lèvres d'ombre, ouvert nos bras de songe. C'était le dernier texte que j'ai retenu dans ce recueil de 1901, Le cœur innombrable, et on y trouve, comme dans les précédents, ce lyrisme teinté de mélancolie qui va caractériser l'ensemble de sa poésie. Avant de poursuivre avec ces textes, parlons un peu de leur auteur. Elle s'appelle Anna de Brancovent, est née en 1876 à Paris. Elle est la fille d'un prince roumain et d'une mère née à Constantinople, puis ayant vécu en Angleterre et qui fut une pianiste virtuose. Si la nature joue un rôle aussi important dans la poésie de Anna de Noailles, c'est sans doute lié au fait que dans son jeune âge, elle passait tous ses étés au chalet d'Amphion, au bord du lac Léman. Le jardin, le lac, les montagnes, le ciel ont donc nourri sa sensibilité et contribué plus tard à alimenter sa poésie. Elle épouse en 1897 le comte de Noailles, homme un peu froid, plus curieux de politique que de littérature, et elle prend donc le titre de comtesse de Noailles. Elle n'a que 23 ans lorsque paraissent en revue ses premiers poèmes qui lui valent aussitôt des louanges et lui ouvrent les portes des salons parisiens. Voici ce qu'en dit François Ravier dans sa préface. Sa présence dans un salon, lors d'une manifestation artistique ou mondaine, où elle arrive toujours en retard, deviendra vite un événement. Caracolant d'un sujet à un autre, trouvant pour chacun le mot juste, c'est-à-dire le moins attendu, piquante, étourdissante, la jeune femme a le pouvoir de monopoliser l'attention. Elle charme infiniment et, si elle fatigue un peu son auditoire, c'est avec un tel talent qu'elle devient bientôt l'une des reines de la vie parisienne. Elle a sa cour et ses admirateurs, mais son succès, son mariage et sa fortune n'empêchent nullement la mélancolie. C'est justement cette mélancolie qu'on voit poindre dans son deuxième recueil, paru en 1902. Une mélancolie qui se reflète d'abord dans le titre « L'ombre des jours » et qui irrigue les poèmes d'une femme qui, bien que fêtée dans le monde, n'est pas dupe du temps qui passe et se voit déjà dans certains textes comme un fantôme. Vous allez entendre deux poèmes de ce recueil. Dans le premier, « Pluie en été », le crépuscule entre en correspondance avec les amours blessés, avec toujours ce lien entre sensation et sentiment. Et dans le second, beaucoup plus obscur, qui a pour titre les regrets, elle songe à la mort et voit ses poèmes comme la seule trace qui restera d'elle. Pluie en été. Ô soir lavé de pluie et balayé de vent, ô soir et lune, une heure se retire et l'autre va devant, belle chacune. L'air frais semble allégé de toutes les fadeurs, de ces détresses qui dans le soir d'été montent de tant de cœurs qu'un cœur oppresse. Ses rêves, ses soupirs dans l'air sentimental des crépuscules, comme ils s'étirent, comme ils glissent et font mal, comme ils circulent. Mais la belle nuée a dans l'ombre laissé couler son onde sur la tiédeur du soir de trop d'amour blessé. Ô paix profonde. Quel calme. Le silence est la bonne fraîcheur, l'arbre s'égoutte. Nul bruit dans les maisons, closes comme des fleurs, rien sur la route. Et dans l'air trempé d'eau, où plus rien n'est assis de l'âme humaine, il se lève une odeur de lierre et de persil qui se promène. Les regrets. Allez, je veux rester seule avec les tombeaux. Les morts sont sous la terre et le matin est beau. L'air a l'odeur de l'eau, de l'herbe, du feuillage. Les morts sont dans la mort pour le reste de l'âge. Un jour, mon corps dansant sera semblable à eux. J'aurai l'air de leur front, le vide de leurs yeux, j'accomplirai cet acte unique et solitaire, moi qui n'ai pas joué seul au jour de la terre. Tout ce qui doit mourir, tout ce qui doit cesser, la bouche, le regard, le désir, le baiser, être la chose d'ombre et l'être de silence. Tandis que le printemps vert et vermeil s'élance et monte, trempé d'or, de sève et de moiteur. Avoir eu comme moi le cœur si doux, le cœur plein de plaisir, d'espoir, de rêve et de mollesse, et ne plus s'attendrir de ce que l'aube naisse. Être au fond du repos, l'éternité du temps. D'autres seront alors vivants, joyeux, contents. Des hommes marcheront auprès des jeunes filles, ils verront des labours, des moissons, des faucilles, la couleur délicate et changeante des mois. Moi, je ne verrai plus. Je serai morte, moi. Je ne saurai plus rien de la douceur de vivre. Mais ceux-là qui liront les pages de mon livre, sachant ce que mon âme et mes yeux ont été, vers mon ombre riante et pleine de clarté, viendront, le cœur blessé de langueur et d'envie, car ma cendre sera plus chaude que leur vie. Vous venez d'entendre le premier nocturne, opus 32 en si majeur de Frédéric Chopin, interprété par Arthur Rubinstein. Anna de Noailles a écrit aussi des romans. Elle en fera paraître trois, en 1903, La Nouvelle Espérance, en 1904, Le Visage Émerveillé, et en 1905, La Domination. Elle revient à la poésie en 1907 avec Les Éblouissements, un recueil de 168 poèmes que François Ravier qualifie de « monstre » dans la production littéraire de l'avant-guerre, mais un beau monstre et qui fit un triomphe. Ainsi, Proust lui consacra un article dithyrambique dans le Figaro du 15 juin 1907, où il sut reconnaître en son ami une âme sœur, comme lui hantée par la beauté éphémère des choses et comme lui en quête, par l'alchimie de la langue, de leur éternité. Et Ravier de rapporter la conclusion de l'article de Proust qui place le recueil de son ami au niveau de la légende des siècles de Victor Hugo. Voici un premier poème placé sous l'égide de Nietzsche avec une citation de Ainsi parlait Zarathoustra. « Car je t'aime, ô éternité !» Elle y propose un parcours qui va de l'évocation d'une journée à celle de l'éternité. L'ambition. La journée est vivante, errante. Un ciel uni semble un flot argenté glissant vers l'infini. Là-bas, c'est la colline heureuse, la prairie. Ici, le beau jardin. Douce géométrie des rangs de réséda baignant dans cet azur. Tout l'univers, bombé, harmonieux et pur. Globe candide et doux que les soleils allument, et comme un éclatant oiseau gonflé de plumes dont on voudrait lisser le corps délicieux. Caresser de la main la pelouse et les cieux. Sentir, sous la tiédeur amoureuse des paumes, palpiter l'azur clair et ses veines d'arômes. Sang rouge des rosiers, sang bleu des fleurs de lin, sucre du lys, pollen mouillé du romarin, des blancs bégonias et de la balsamine. Être si peu de jours sur la terre divine, être soumis au temps, à la destruction, et qu'il y ait parfois tant de perfection dans un jardin d'été que le soleil embrase. Que ce soit la splendeur, l'enchantement, l'extase, qu'enivré, qu'exalté, l'on se sente éternel, que le charme du jour et du moment soit tel que l'on ne puisse plus prévoir la fin des choses. Et pourtant, déjà tout s'éteint, déjà les roses au soleil de juillet s'entr'ouvrent pour mourir. Et nous qui voulions tout goûter, tout saisir, nous qui voulions poser, image ineffaçable, comme un delta divin, notre main sur le sable. Nous qui voulons pencher à des balcons chantant, être Iseux, Roméo pendant plus de 100 ans, qui voulons, ô Venise, en ta nuit sans égale, être l'ardent concert et le feu de Bengale, nous qui portons au fond du cœur, au creux des mains, les émouvants soleils des sentiments humains. Nous qui n'avons jamais connu assez de joie, nous serons le mort noir que l'ombre immense noie. Nous dormirons les yeux bandés, le front obscur. L'azur. Avoir aimé si saintement l'azur que nos désirs, cherchant leur brûlante compagne, s'inclinaient vers l'Afrique en s'enivrant d'Espagne, et mourir en laissant à d'autres des étés. Je voudrais épuiser sur moi l'éternité. Ainsi, nous serons morts dans l'ombre et le mystère. Nous qui savions si bien la beauté de la terre, nous dont les chauds regards sur le monde posés étaient comme des mains et comme des baisers, nous dont le cœur plus lourd qu'un florissant empire avait bien aimé Dante et bien compris Shakespeare, nous qui, dans la splendeur glorieuse du soir, ne pouvant assigner de terme à notre espoir, à notre ambition joyeuse, âpre, rapide, à la foule des dieux qu'en nos cœurs nous créons, menions notre désir et notre envie avide dans le cercle sonore et le bleu des Invalides, jusqu'à ce puits de gloire où dort Napoléon. En contrepoint à ce texte, où le temps circule, où le temps s'accélère et nous emporte, en voici un second qui est tout l'inverse et qui appelle au calme. Un gros plan sur un moment suspendu, hors du temps. Un doux répit, un échantillon de bonheur. Silence en été. Silence. Le soleil est pris dans le volet et reste là, comme une abeille qui volait et qu'un lys blanc retient dans sa forte étamine. Silence. On n'entend pas que le temps vif chemine. C'est un répit si clair, si sûr, si persistant que l'on croit être enfin et pour toujours content. Et l'on sommeille et l'air est jaune comme l'ambre. Ô silence, couleur de soleil dans la chambre. Silence. Horloge molle, au son faible, enchanté, qui marque les instants du bonheur en été. Thank you. C'était une valse de Chopin, interprétée par le pianiste Alexandre Tarot. Voici, toujours dans le recueil Les Éblouissements, deux poèmes courts, dont le premier fait référence à ses souvenirs d'enfance, au bord du lac Léman. Enfance dans la Savoie. Il a plu cette nuit, une naïve odeur parfume le ciel gris, un voile d'eau charmante sur les vergers, empli de songes et de candeur, jette sa transparente et vaporeuse mante. Il fait à peine jour, l'étroite ville dort, et j'entends cependant que des ruisseaux d'air glissent avec un bruit divin de porcelaine et d'or, une cloche sonnait là-bas, chez les Clarisses. Jardin près de la mer. Ah, que vivre est divin! L'âpre brise marine a trempé ce matin les œillets du jardin, et dans le doux parterre assoupi, c'est soudain l'odeur d'un paquebot qui s'en va vers la Chine. Et rien n'est plus charmant que ce désir qu'on a des pays embués de fièvres éternelles quand on est près des lys, du lin, des dauphinelles, dans le calme jardin que le ciel nous donna. Le recueil qui paraît en 1913 avec pour titre « Les vivants et les morts » est plus sombre que les précédents. La poésie devient chant de deuil et confession du mal de vivre. Anna de Noailles se débat entre la quête d'un sens à l'existence et la conviction du néant. Elle mène toujours une vie mondaine intense qui alterne avec des périodes d'épuisement. « Madame de Noailles, dit François Ravier, fut toute sa vie fatiguée, alla de cures de repos en villégiature de santé et souffrit jusqu'à la fin d'insomnie et de migraines. Elle ressentit, elle aima plus que quiconque, mais plus que quiconque aussi, elle éprouva l'horreur de n'être plus. Toute sa poésie est conjuration de sa disparition et transmission de sa passion d'être aux générations futures. Dans le premier texte, la nature est toujours très présente, comme dans les recueils précédents, mais elle n'est plus pour elle matière à transcrire des éblouissements. La lassitude a remplacé l'enthousiasme, et la poétesse se dépeint face à un paysage nocturne qui s'est comme asséché et qui ne génère plus que la tristesse. Et lorsque vient l'aube, dans le second poème que vous allez entendre, la sensation d'avoir échappé au pire en voyant remonter le jour, ne dissout pas l'angoisse face à ce qui sera, un jour prochain, sa dernière nuit. Pour accompagner ces deux poèmes, ce sera le larghetto du deuxième concerto pour piano en fa mineur, interprété à nouveau par Arthur Rubinstein. La nuit flotte, amollie, austère, taciturne, impérieuse. Elle est funèbre comme une urne qui se clôt sur un vague et sensible trésor. Un oiseau, intrigué dans un arbre qui dort, paraît interroger l'ombre vertigineuse. La lune, au sec éclat, semble une île pierreuse. Cité aride et froide, où tout désir est mort. Une vague rumeur émane du silence. Un train passe au lointain, et son essoufflement semble la palpitante et paisible cadence du coteau qui respire et songe doucement. Un parfum délicat, abondant, faible et dense, mouvant et spontané comme des bras ouverts, révèle la secrète et nocturne existence du monde végétal au souffle humide et vert. Et je suis là. Je n'ai ni souhait, ni rancune. Mon cœur s'en est allé de moi, puisque ce soir, je n'ai plus le pouvoir de mes grands désespoirs, et que paisiblement, je regarde la lune. Je suis la maison vide où tout est flottement. Mon cœur est comme un mort qu'on a mis dans la tombe. J'ai longuement suivi ce bel enterrement, avec des cris, des deuils, du sang, des tremblements et des égorgements d'agneaux et de colombes. Mais le temps a séché l'eau des pleurs et le sel. D'un œil indifférent, sans regret, sans appel, éclairé par la calme et triste intelligence, je regarde la voûte immense où les mortels ont suspendu les vœux de leur vaine espérance. Et je ne vois qu'abîme, épouvante, silence, car, ô nuit, vous gardez le deuil continuel de ce que rien d'humain ne peut être éternel. On étouffe d'angoisse atroce et l'on respire. Il semble que l'on ait désormais vu le pire, qu'on est sorti vivant du cercle de l'enfer, que c'est fini. Le jour remonte, calme et clair. On entend les rumeurs des routes, des villages, le chant des coqs, le doux roulis des engrenages, allaitement de fer que font dans le lointain les usines, fumant sur le léger matin. Une haleine de fleurs épaissit les prairies. On voit sur le torrent écumer la Syrie. Les calmes oliviers, immobiles, songeants, reçoivent tout l'azur dans leur tamis d'argent. et les abeilles, par leur danse chaleureuse, font un voile doré aux collines pierreuses. Et l'on est sauf. Mais quand reviendront les effrois, quand ce sera vraiment pour la dernière fois, quand ce sera le terme exact de toute chose, le mal sans guérison, la mort de ceux qu'on ose à peine regarder tant ils sont beaux et chers, quand l'esprit ne pourra plus réjouir la chair, quand on sera usé, délaissé, terne, comme un jardin d'hôpital où flânent de vieux hommes, quand ni les prés gonflés qui montent aux genoux, ni l'orgueil ni l'amour ne seront faits pour nous, quand tout ce qui voyage, agit, aile, circule, s'éloignera de l'ombre où notre front recule, et qu'on sera déjà un cadavre vivant, dont le timide effort derrière un contrevent regarde encore un peu le soleil et l'orage verser aux cœurs humains les robustes courages et la témérité par qui Dieu vient en aide. Quand le malheur sera formel, net, sans remède, et qu'on sera poussé, morne, les bras liés, contre le mur où sont tombés les fusillés. Quel baume, quel secours subit, quelle allégeance me mêlera, nature, à votre calme essence. Si le goût de vivre s'étiole dans les poèmes d'Anna de Noailles, son goût pour l'écriture, lui, ne faiblit pas, puisqu'en 1920 paraît le recueil « Les forces éternelles », 193 poèmes, soit 25 de plus que « Les éblouissements ». C'est 2 ans après le manifeste d'Ada et 7 ans après « Alcool » de Guillaume Apollinaire. Parallèlement au bouillonnement littéraire de ce début de siècle, l'écriture d'Anna de Noailles continue d'affirmer la vitalité de la prosodie classique. Plusieurs des textes de ce recueil sont inspirés par la Première Guerre mondiale. Celui que j'ai choisi de vous faire entendre s'appelle « La jeunesse des morts ». Viendra ensuite un poème intitulé « Pensée dans la nuit ». Le printemps appartient à ceux qui lui ressemblent, aux corps adolescents animés par l'orgueil, à ceux dont le plaisir, le rire, le bel œil ignorent qu'on vieillit, qu'on regrette et qu'on tremble. Ô guerrière nature, où sont ces jeunes gens? Quel est ton désespoir lorsque saigne et chancelle la jeunesse qui seule est fière et naturelle et brille dans l'azur comme un lingot d'argent? Ces enfants, bondissants, partaient, contents de plaire au devoir, à l'honneur, à l'immense atmosphère, aux grands signaux humains brûlant sur les sommets. Ils dorment à présent, saccagés dans la terre, qui fera jaillir d'eux ces rêveurs mois de mai. Songeons, le front baissé, au glacial mystère que la patrie en pleurs, mais stoïque, permet. Ils avaient 20 ans, l'âge où l'on ne meurt jamais. Pensée dans la nuit. L'averse communique à l'air un goût marin. Le vent frémit ainsi qu'une immense flottille, la lune entr'ouvre aux cieux un aileron d'airain, une étoile endormie à peine brille et scie. Et je respire, avec une ample volupté, cette verte élastique et fraîche crudité du feuillage content qui, comme un hymne, élance la pure odeur de l'eau dans le puissant silence. Tout repose, l'air est mouillé comme une fleur, chaque point de l'éther tranquillement s'égoutte, un vent plus vif répand sa subite candeur, je suis là, faible humain, je contemple, j'écoute. Le vent noir vient à moi et dans mon souffle heureux s'élance avec l'odeur des torrents et des cieux. Et mon cœur se dilate et l'infini pénètre la tristesse attentive et sage de mon être. Je songe aux morts, je goûte avec austérité la vie et ce puissant, régulier délire qui, depuis l'humble sol jusqu'aux astres sacrés, étend l'acte divin et fier de respirer. Et les morts sont sans souffle, et dans leur sombre empire, jamais plus ne descend ce grand ciel aéré qui m'accoste et m'imprègne. Ô monde, je respire. C'était le quatrième prélude en si mineur de Chopin avec Grigori Sokolov au piano. Une musique empreinte de gravité pour introduire les derniers poèmes d'Anna de Noailles issus de « L'honneur de souffrir » qui paraît en 1927, 6 ans avant sa mort en avril 1933. Ce recueil porte en exergue une citation de l'Antigone de Sophocle. « J'aurai plus longtemps à plaire à ceux qui sont sous terre » à ceux qui sont ici. Un peu comme l'Antigone emmurée vivante, Anna de Noailles s'enferme de plus en plus chez elle et la voilà devenue dans son écriture habitante, éthérée et fixe des tombeaux. Un recueil selon François Ravier qui conclut à l'absence éternelle, au silence, au vide. La poussière reste poussière et la grande dame dont les bons mots faisaient pâmer Paris ne peut que constater, face au cadavre qu'elle imagine et qui est le sien, l'inanité de tout verbe. Je vous livre pour terminer quelques-uns de ces poèmes dans lesquels elle a délaissé l'alexandrin au profit de l'octosyllabe. Vivre, permanente surprise, l'amour de soi, quoi que l'on dise, l'effort d'être toujours plus haut le premier parmi les égaux. La vanité pour le visage, pour la main, le sein, le genou, tout le tendre humain paysage. L'orgueil que nous avons de nous, secrètement. L'honneur physique, cette intérieure musique par quoi nous nous guidons, et puis le sol creux, les cordes, le puits où lourdement va disparaître le corps ivre d'éternité. Et l'injure de cesser d'être, pire que n'avoir pas été. Il convient que l'on appelle âme cet excès de feu, de couleur dont la jeunesse se réclame. Mais quand l'arbre perdra ses fleurs, il faudra bien qu'un jour tu rames sur la galère du malheur. C'est le corps qui verse les pleurs. J'ai tant souffert, je souffre tant, que plus rien ne semble important à mes yeux qui fixent le vide où se défont les morts livides. Je sais bien qu'il existe encore cet animal plaisir du corps que le désir prise et dédaigne. Mais jamais plus un noble accord n'emplit, ne pénètre, n'imprègne cette âme où le désespoir règne. Car, ayant la nette stupeur d'un monde où tout est inutile, j'éprouve, au centre du malheur, qu'il est également futile de sentir qu'on vit ou qu'on meurt. Il faut que je dorme ou que j'aille, car le vivre m'est interdit par la terreuse et noire entaille rejoindre vos cœurs assourdis. Mais vais-je jamais vous rejoindre? Dans mon esprit lucide et fou, je sens la certitude poindre que la mort, c'est la mort sans vous. C'est avec un dernier prélude, le numéro 13, également interprété par Grigory Sokolov, que se referme cette émission de septembre. Nous nous retrouverons le jeudi 17 octobre. Et d'ici là, si vous avez envie d'entendre des poèmes, rejoignez-nous le jeudi précédent, à savoir le 10 octobre, à partir de 20h, au Temps des Noyaux, pour déguster quelques vers de nos poètes contemporains avec voix mêlée. À bientôt. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.